chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Est-Richu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Donc, bonjour et bienvenue au balado Savoir et Stéthoscope. Alors, vous êtes en compagnie aujourd'hui de Julie Blanchette, conseillère en soins infirmiers à la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Est-Richu et de...
Stacy Corriveau, conseillère cadre clinicienne à la Direction des soins infirmiers. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui occupe une place importante dans l'actualité et qui m'interpelle beaucoup, le développement durable et les changements climatiques. On a tous déjà entendu parler d'événements climatiques extrêmes ou bien des changements climatiques, mais qu'en est-il vraiment?
Et surtout, c'est quoi l'impact sur notre pratique professionnelle concernant le développement durable?
Oui, et à l'inverse, quel est l'impact du développement durable sur notre pratique professionnelle? Pour en discuter avec nous, nous accueillons deux expertes en la matière, professeure Isabelle Ledoux, qui est professeure agrégée et responsable de la compétence transversale de l'éco-responsabilité au Bureau de la responsabilité sociale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, et Marie-Andrée Houle, infirmière, chargée de cours et étudiante à la maîtrise en sciences infirmières en recherche sur le sujet des changements climatiques. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Nouveauté, développement, accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
La Direction des soins infirmiers est heureuse de vous annoncer le déploiement officiel de la règle de soins en immunisation. Ce fut le fruit d'un travail collaboratif de différentes conseillères cadres cliniciennes de la DSI et de la DSM, la Direction des services multidisciplinaires, de même que les conseillères en soins infirmiers et la Direction des soins généraux. En effet, la mise en commun de chacune des expertises cliniques ont permis d'encadrer officiellement la pratique de l'immunisation au sein de notre établissement. Tous les secteurs effectuant l'immunisation sont touchés par cette nouvelle règle de soins, car elle y inclut les différents départements, mais aussi tous les professionnels qui effectuent l'immunisation, et peu importe le titre d'emploi. Celle-ci vient notamment encadrer la pratique clinique autour de l'acte, ainsi que le volet de développement des compétences et formation du personnel selon leur trajectoire clinique ou leur niveau d'implication auprès de l'immunisation. Avec l'arrivée des nouveaux points de service locaux, l'encadrement de la pratique en immunisation était judicieuse et nécessaire, tout cela évidemment dans une vision de pratique clinique sécuritaire et de qualité auprès de la clientèle. La règle de soins a pour objectif de promouvoir l'utilisation du plein champ d'exercice de l'infirmière, particulièrement l'activité de procéder à la vaccination dans le cadre d'une activité découlant de l'application de la loi sur la santé publique. L'infirmière a un rôle primordial en prévention des maladies évitables par la vaccination, le souhait étant que les infirmières utilisent leurs connaissances et leurs compétences afin de procéder à l'immunisation de la clientèle, mais aussi en ayant un rôle d'influence de counseling auprès de celle-ci. À noter que la règle de soins est disponible sur le site de Santé Estrie dans les outils cliniques, vaccination, outils pour les vaccinateurs, encadrement clinique.
De nombreux discours circulent sur les changements climatiques et l'importance du développement durable. Bien que nous pourrions passer des heures à explorer ces thèmes, pour notre premier balado sur le sujet, nous allons nous concentrer sur les fondements afin de mieux saisir les enjeux.
C'est vrai, puis les sujets peuvent sembler vastes puis parfois là, très complexes. Alors, j'aime l'idée de commencer par la base. Mais qu'est-ce qui te semble le plus crucial à aborder en premier?
Bien, je pense qu'on va demander à nos invités. Avant de se lancer, j'aimerais ça savoir, on peut-tu se tutoyer?
Bien oui.
Bien sûr.
Oui, parfait. Donc, Marie-Andrée, j'ai une question pour toi. Pourquoi parler des changements climatiques maintenant? Est-ce qu'il y en avait il y a 10 ans? Puis si oui, c'est quoi la différence avec aujourd'hui?
Les changements climatiques ont effectivement débuté depuis plus de 10 ans. Cependant, ils sont de plus en plus étudiés, puis on comprend davantage l'ampleur du phénomène. D'ailleurs, en 2009, un groupe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé déclarait que les changements climatiques sont la plus grande menace à la santé des populations du 21e siècle. Pour sa part, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, soit le GIEC, a déclaré que les changements climatiques sont apparus plus tôt que prévu, puis sont aussi plus graves que prévu. Considérant qu'il s'agit d'une menace à la santé, c'est clair que les professionnels en soins doivent et devront de plus en plus adapter leurs pratiques à cette réalité.
On entend vraiment plusieurs terminologies là, en lien avec tout ce qui est développement durable. Ça devient là, parfois assez difficile là, de s'y démêler. Là. Et je me demandais, donc Isabelle, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu à quoi ça réfère l'éco-responsabilité, l'éco-anxiété, l'éco-littératie, puis nous donner des petits exemples?
Bien sûr. Débutons par l'éco-responsabilité. L'éco-responsabilité mobilise une pensée critique à l'origine de l'adoption de conduites ou de pratiques réfléchies. Elle peut même questionner les fondements d'une pratique en regard de ses impacts environnementaux et économiques. C'est bien complexe, cette définition, mais en fait, une personne éco-responsable comprend deux concepts majeurs, soit l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. L'adaptation est le fait d'agir sur les conséquences directes du changement climatique, que ces conséquences soient déjà ressenties ou qu'elles arrivent dans le futur. Prenons par exemple des gens qui ont une résidence au bord d'une falaise. On sait que dans 20-30 ans, la falaise en question pourrait complètement s'effondrer dû au changement de sol. Même chose au bord de l'eau, par exemple. Donc ça, c'est une adaptation au changement. Maintenant, une atténuation, quant à elle, porte sur l'absorption ou la réduction des gaz à effet de serre, pardon. Donc GES. Il s'agira, par exemple, d'utiliser massivement le transport en commun, réduire sa consommation de viande ou plutôt acheter un vêtement usagé dans une friperie, par exemple. Maintenant, si on parle d'éco-anxiété, c'est un sentiment d'anxiété, de préoccupation ou d'appréhension ressenti par une personne devant des bouleversements causés par les changements climatiques et leurs conséquences. L'éco-anxiété, on pense que c'est une maladie, mais en fait, c'est tout à fait normal parce qu'on fait face à une certaine menace qui est attendue et les personnes réagissent de façon normale et parfois même bénéfique. Ça peut devenir un moteur de changement pour certaines personnes qui mènent à une transformation. Mais toutefois, cela peut devenir très néfaste à un niveau plus élevé et même entraîner une détresse mentale dont on parle souvent dans les réseaux. Donc, une personne sur 13, soit 8 % a un niveau d'éco-anxiété élevé et ce taux peut aller jusqu'à 18 % chez les jeunes de 18 à 24 ans. Il faut donc avoir une approche structurée et multiniveau pour permettre de réduire les conséquences négatives sur notre société. Je termine avec le dernier terme qui est l'éco-littératie. On peut également l'appeler littératie écologique. C'est toute la capacité de comprendre les systèmes naturels et d'appliquer les principes de gestion des écosystèmes. C'est un type de littératie qui fait appel à une pensée systémique et collaborative. Puis il y a plusieurs initiatives régionales, provinciales, nationales qu'on entend dans nos réseaux sociaux ou à la télévision pour sensibiliser la population aux enjeux entourant l'écologie. Des vidéos, des outils, des affiches, des exemples de ressources auxquelles on peut se référer pour prendre et s'adapter surtout au changement climatique de façon sérieuse. Un dernier exemple, les capsules vidéo de la santé publique qui ont été présentées pour la présence de tiques en région sur les réseaux sociaux et les trousses conseils qui ont été distribuées dans certains secteurs de la ville pour prévenir les coups de chaleur en période de température extrême.
Il y a quelque chose qui ne reste pas clair pour moi là, quand on parle de changement climatique, à quoi qu'on réfère là, plus précisément et pour quelles raisons les personnes infirmières devraient s'intéresser au changement climatique? Je ne sais pas si tu peux nous répondre, Marie-André.
En fait, c'est important de réaliser que les changements climatiques ont des impacts réels sur la santé des populations. Par exemple, l'augmentation des infections transmises par les tiques, des allergies, de certains cancers. Au Canada, les événements climatiques extrêmes se multiplient, puis l'estrie n'y échappe pas. Il y a différents aléas qui touchent déjà notre région. On voit les vagues de chaleur, les inondations, les fortes précipitations, les vagues de froid, les tempêtes, puis aussi l'augmentation des pollens allergènes. On est aussi touché par les zoonoses. Les zoonoses, comme la maladie de Lyme, sont aussi présentes dans la région.
Juste pour bien faire comprendre aux auditeurs, auditrices, la notion de zoonose, on parle de maladie transmissible de l'animal à l'homme.
Exactement. Puis, concernant plus précisément les vagues de chaleur, pour comprendre l'impact sur la santé physique et mentale, voici là, quelques statistiques présentées par l'INSPQ. Les vagues de chaleur augmentent les hospitalisations de 2 % jusqu'à 11 %. Le risque de suicide au Canada est 1,46 fois plus élevé à 24 degrés qu'à moins 15 degrés Celsius. En Colombie-Britannique, en 2021, il y a eu un dôme de chaleur où la température la plus haute au Canada a été enregistrée à 49,6 degrés Celsius. Ce dôme de chaleur-là a fait 619 morts qui auraient pratiquement été impossibles sans l'influence des changements climatiques, ce qui montre que les changements climatiques posent vraiment un énorme défi pour la santé. En plus, la Colombie-Britannique, comme nous, était touchée à ce moment-là par la pandémie de COVID-19, mais aussi par des feux de forêt, puis la crise des opioïdes. Combinés ensemble, c'est clair que ça augmente vraiment de façon considérable la demande pour le réseau de la santé, puis ça l'augmente rapidement également. Sans mesure d'adaptation, le taux de mortalité au Canada pourrait augmenter de 2,5 à 5,5 fois plus élevé d'ici la fin du siècle, selon les différents scénarios climatiques qu'on peut faire. Les infirmières devraient donc être familières avec la gestion des urgences sanitaires puis des sinistres, puis s'intéresser aussi aux différentes mesures mises en place dans leur établissement. Aussi, elles devraient détenir des connaissances sur les impacts des changements climatiques sur la santé, puis les populations qui desservent qui pourraient être plus vulnérables afin de les intégrer dans leur démarche de soins.
Puis, pouvez-vous nous en dire davantage sur les clientèles vulnérables? C'est qui ces gens-là, professeur Ledoux?
En fait, il y a les personnes âgées, les bébés, les enfants de moins de 5 ans, les personnes à faible revenu ou vivant seules, les personnes consommant de façon excessive de l'alcool ou des drogues, les femmes enceintes qui sont plus vulnérables en lien avec la chaleur, la pollution de l'air, ça peut augmenter le risque de travail prématuré, par exemple, et les personnes vivant avec des maladies chroniques.
Et justement, est-ce que les maladies chroniques sont plus à risque que d'autres?
Par exemple, pour les personnes atteintes de problèmes respiratoires comme la MPOC ou l'asthme, ils peuvent être plus affectés par la présence de smog relié par exemple aux feux de forêt ou aux transports. Il y a aussi certains médicaments qui peuvent augmenter les risques de déshydratation, comme les diurétiques, ou impacter la thermorégulation, comme les antiparkinsoniens. Il faut donc adapter nos recommandations à ces personnes quand il y a des vagues de chaleur.
Merci, Marie-Andrée. Je voulais savoir, Isabelle, les personnes qui sont davantage à l'extérieur, là, est-ce qu'elles sont plus à risque aussi?
Tout à fait. Les personnes en situation d'itinérance, les personnes qui travaillent en pratiquant des sports à l'extérieur, on pense au tennis, par exemple. Les personnes autochtones aussi qui sont plus vulnérables parce qu'elles sont parfois dans des communautés plus isolées avec des difficultés d'accès à l'eau potable, de l'électricité et les aléas peuvent augmenter ces difficultés-là. Plusieurs communautés sont également au nord qui se réchauffent beaucoup plus rapidement qu'ici et la fonte du pergélisol, à titre d'exemple, pourrait, par exemple, provoquer des problèmes d'accès routier. Donc, les personnes vivant de la terre sont aussi très affectées là, par les changements climatiques.
Et Marie-Andrée, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par personne vivant de la terre? Est-ce que tu peux nous donner un exemple?
En fait, c'est les personnes qui sont agricultrices ou qui soutiennent ces activités-là dans les champs, par exemple. Elles sont plus exposées à la chaleur extrême puis vivent davantage les conséquences économiques qu'entraînent, par exemple, d'importantes précipitations sur leur récolte saisonnière. Il n'y a pas juste les personnes qui vivent de la terre qui sont touchées, mais aussi l'alimentation, ce que nous, on va retrouver dans notre assiette. Certaines céréales peuvent être menacées par la réduction du couvert de neige qui les protège du vent, de la glace. Les changements climatiques peuvent aussi contribuer à la prolifération d'insectes ravageurs. L'érosion des sols est aussi un défi dans notre région en raison du relief, puis ça peut être amplifié par les sécheresses, les pluies intenses. Il y a aussi l'industrie acéricole qui est touchée en raison du printemps hâtif. Les revenus des travailleurs agricoles peuvent être fortement affectés par les changements climatiques. On a d'ailleurs vu les agriculteurs manifester au printemps 2024 en lien avec la précarité de leurs revenus actuellement. Puis ça pourrait s'aggraver là, avec les changements climatiques.
Donc, pour bien se préparer pour le balado, on est allé consulter, dans le fond, sonder une trentaine de professionnels, infirmières, infirmières auxiliaires, IPS, là, dans différents secteurs de l'organisation. Il a été intéressant de constater que 90 % d'entre eux et elles là, se disent préoccupés par les changements climatiques, mais pourtant seulement 46 % affirment que ces changements-là vont venir influencer leurs pratiques professionnelles.
C'est quand même surprenant, puis on dirait que le lien entre les changements climatiques et leurs pratiques professionnelles n'est pas bien compris, puis je me demande si ça pourrait pas être simplement dû à un manque d'information.
Bien, c'est fort possible, hein? Puis on leur a également demandé si elles, ils se sentaient interpellés par le développement durable. Puis curieusement, c'est quand même 80 % des répondants qui se sentaient préoccupés, tandis que la majorité des autres ont répondu par une mention là, neutre. Là. Fait que c'est ça un autre reflet du manque de connaissances de certains et certaines sur le sujet, c'est difficile de se sentir engagé si on ne sait pas de quoi il en retourne là exactement. Fait que ça mène donc justement à une prochaine question. Je vais l'adresser à Isabelle. C'est quoi les moyens? Quels sont les moyens finalement que les personnes qui sont infirmières ont à leur disposition pour intervenir de manière éco-responsable dans leur pratique?
En fait, les infirmières peuvent agir sur le plan personnel et professionnel en réalisant des choix éco-responsables, comme par exemple utiliser les transports en commun pour se rendre au travail. Elles peuvent également participer à des initiatives internes du CIUS ou du milieu de travail où elles exercent leurs fonctions, en favorisant le compostage des articles d'emballage alimentaire. Elles peuvent également agir sur le plan individuel ou collectif. Prenons l'exemple de donner des conseils de prévention, promotion de la santé à des personnes de différents niveaux qu'elles peuvent offrir. Elles peuvent montrer des exemples d'atténuation au changement climatique en tant que professionnelle de la santé et surtout à titre de citoyenne. Je vais donner des exemples dans quelques instants. Elles sont appelées à jouer des rôles importants, notamment avec la campagne québécoise Les gants, pas tout le temps. Il existe des initiatives, notamment de l'Institut Cascade, qui peut permettre de mettre des contextes dans le milieu hospitalier favorables à ces types de pratiques. À titre de personne citoyenne, les infirmières peuvent s'impliquer activement dans des comités municipaux qui visent à promouvoir les comportements éco-responsables et participer à différents plaidoyers visant à instaurer des mesures pour réduire les îlots de chaleur, tels que la végétalisation des espaces de stationnement, la création de micro-forêts urbaines, les systèmes de gestion des eaux de pluie ou même la végétalisation des toits. Au sein des organisations de la santé, les personnes infirmières peuvent également faire valoir certaines mesures telles que l'offre alimentaire composée d'aliments locaux et végétariens dans les cafétérias, et elles peuvent réduire l'utilisation des inhalateurs doseurs à dosage unique. Soit dit en passant, c'est un problème majeur. Par leur nombre de grands effectifs qu'on a au Québec d'infirmières, on a un réel pouvoir d'action sur leur environnement, puis on a un rôle d'advocatie majeur qu'on peut jouer sur le plan politique. C'est non négligeable. En plus, les infirmières et infirmiers peuvent travailler avec différents professionnels en collaboration pour réaliser leurs différentes interventions. Il faut savoir qu'il y a un élément important qui peut porter fruit, c'est le paradoxe du pollueur-soigneur. En effet, si les systèmes de santé offrent des soins à la population, ils ont aussi un grand impact environnemental, notamment en déchets, gaz anesthésiants, médicaments, transport du matériel et employés, imagerie médicale et sources d'énergie. Pour vous donner une idée, si le secteur de la santé était un pays, il serait le 5e émetteur mondial de gaz à effet de serre. Ça peut être un levier important pour convaincre des décideurs.
Oui, je suis un peu subjuguée là, par cette statistique-là. Mais je me demande, c'est quoi les meilleurs moyens de former ou de préparer les infirmières à être plus éco-responsables et contribuer au développement durable?
Dans les réponses du sondage dont on a parlé tout à l'heure, on a parlé entre autres d'un manque d'informations, d'un manque de connaissances. Bien, il existe plein de formations qu'on peut suivre à l'OIQ, au CIDIEF, à l'Institut Cascade ou l'INSPQ. Les programmes de formation en sciences infirmières tendent aussi à adapter leur contenu à cette nouvelle réalité. Elles vont par exemple adapter les mises en situation qui vont traiter de chaleur extrême ou d'inondation. Elles vont parfois même faire des simulations à grand déploiement en contexte de désastres externes dans une école fictive pour mieux former les infirmières de demain. Les milieux cliniques jouent un rôle important également pour préparer le personnel soignant par des mesures préventives dans la communauté en collaboration avec la santé publique, notamment lorsqu'on émet des avis d'importance sur l'hydratation ou l'ouverture de centres communautaires climatisés. Plusieurs nouvelles formes de cours ont vu le jour, notamment celle du service à la communauté, où les infirmières sont invitées à aller dans les organismes communautaires régionaux pour mieux comprendre le rôle des déterminants sociaux de la santé qui peuvent influencer l'adaptation des populations à risque au changement climatique. On parle alors de vulnérabilité de certains individus. Ça nous amène à un concept qu'on n'a pas encore exploré, qui est l'injustice climatique, c'est-à-dire que les personnes les plus vulnérables face au changement climatique sont souvent celles qui ont moins accès aux moyens pour y faire face. Climatisation, piscine, endroits où on peut se détendre, se rafraîchir. C'est des choses auxquelles ces personnes ont malheureusement peu d'accès. Finalement, la collaboration est un atout important avec les autres professionnels de la santé et certains cours peuvent se donner avec d'autres professionnels également pour mieux se former et être prêt à ces différents phénomènes. Car c'est collectivement qu'on arrivera à s'adapter.
C'est quand même intéressant cette notion-là hein, d'injustice climatique. C'est un discours que je ne connaissais pas. Puis en effet, ça fait vraiment tout son sens, là. Un autre point aussi, moi, qui m'a fait réagir dans le sondage, c'est que la majorité des professionnels en soins ont nommé qu'ils étaient intéressés à en savoir davantage sur le développement durable dans le contexte là, de la pratique professionnelle. Mais est-ce qu'il existe aussi des références, donc des ressources qu'elles pourraient consulter si elles veulent vraiment en connaître plus? Marie-André, as-tu une idée?
Oui, bien en fait, pour les personnes qui aiment la formule balado, l'OIQ propose une série de balados qui s'appelle « C'est dans l'air », puis l'épisode 4 est justement sur « Adapter sa pratique à la réalité des changements climatiques ». Sinon, Isabelle a parlé de plusieurs formations continues qui existent. Il y en a d'ailleurs une qui est dans une revue de perspectives infirmières de l'OIQ du printemps 2021, qui donne d'ailleurs accès à des heures de formation continue accréditées. Sinon, il existe aussi Uranus, qui est un site intéressant pour retrouver différentes informations sur les changements climatiques qui font plusieurs projets de recherche là-dessus. Il y a également l'INSPQ, puis finalement la Direction de la santé publique de l'Estrie, qui vont faire là, plusieurs publications sur les impacts des changements climatiques, sur la santé physique, la santé mentale. Vous pouvez d'ailleurs consulter l'intranet du CIUSSS pour découvrir le dernier rapport publié par la santé publique sur ce sujet-là.
Et pour les auditeurs et auditrices qui seraient intéressés, là, Uranos, donc c'est O-U-R-A-N-O-S pour ceux et celles qui sont intéressés.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
Donc aujourd'hui, on veut vous parler de l'ouverture de la nouvelle et toute première clinique IPS. Le Québec fait actuellement face à des défis de taille, dont le vieillissement de la population, l'augmentation du nombre de maladies chroniques, de nouveaux virus, les changements climatiques, la hausse du nombre de consultations pour des problèmes de santé mentale, et j'en passe. Les infirmières et infirmiers doivent donc répondre aux besoins grandissants de la population tout en continuant de développer leurs compétences afin d'offrir des soins de qualité. C'est avec fierté cet automne que nous avons assisté à l'ouverture de la clinique d'infirmières praticiennes spécialisées du 50 rue Camiran à Sherbrooke. Cette clinique s'intègre en continuité et en complémentarité avec la mission d'offrir des soins de santé et des services sociaux à la population au niveau de la première ligne. Cette ouverture permettra à la population sans médecin de famille ou IPS, dont la clientèle orpheline, de recevoir des soins de santé en temps opportun.
Soins sécuritaires,
réontologie,
L3S,
acte réservé.
Ai-je le droit?
Ai-je le droit de prodiguer des soins à un membre de ma famille, un ami ou une connaissance? Il est vrai que le code de déontologie ne prohibe pas explicitement le fait de donner des soins à une personne proche. Les autres professionnels sont conscients que dans certaines situations, notamment dans les petites localités, de telles situations pourraient survenir. Néanmoins, la déontologie nous rappelle qu'il est essentiel d'éviter de se trouver dans des situations susceptibles de nuire à la relation thérapeutique ou à notre indépendance professionnelle. La notion de conflit d'intérêts englobe toute situation où les intérêts personnels d'un professionnel pourraient l'amener à privilégier certains aspects au détriment de d'autres aspects, compromettant ainsi son jugement clinique, sa loyauté et son impartialité. Prenons un exemple que vous travaillez aux urgences et que vous devez traiter votre père en arrêt cardio-respiratoire. Pourriez-vous agir de manière objective, avec toute la distance nécessaire et sans être influencé par vos émotions? Que dire de la fille de 15 ans de votre meilleure amie qui vient vous consulter pour une grossesse non désirée? Comment vous assurerez-vous de respecter votre obligation en matière de secret professionnel? Et enfin, si votre sœur se présente pour des conseils concernant une problématique de santé pour laquelle elle se doit de prendre une décision libre et éclairée, ne seriez-vous pas tenté d'influencer ses choix, même inconsciemment, en raison de votre lien familial et de votre expertise? En conclusion, l'infirmière doit toujours préserver son indépendance professionnelle et éviter toute situation de conflit d'intérêts qui pourrait entraîner un manquement déontologique. Dans de telles circonstances, il est recommandé de consulter votre supérieur immédiat pour envisager la possibilité qu'une autre infirmière s'occupe de la personne.
Équité, diversité, inclusion. La Minute EDI avec Franck Boulasladj.
Apparence physique et discrimination. La discrimination de l'apparence physique se produit lorsque des personnes sont traitées différemment en raison de leur apparence. Cela inclut des critères comme la taille, le poids, la couleur de peau, les traits du visage et même le style vestimentaire. Dans le milieu professionnel, cette forme de discrimination peut se manifester à différents niveaux, comme à l'embauche ou dans les interactions quotidiennes du milieu de travail. Les personnes vues comme plus attrayantes peuvent recevoir des avantages injustes, tandis que celles jugées moins conformes aux normes de beauté peuvent faire face à des obstacles injustes. Une des discriminations courantes est celle liée à la grossophobie. La vie de la majorité des personnes en surpoids ou considérées obèses est parsemée de micro-agressions pouvant avoir des effets non négligeables sur leur santé physique et ou psychologique. L'exclusion et le jugement d'autrui peuvent entre autres amener ces personnes à développer des problèmes d'estime de soi, de l'anxiété, divers troubles reliés à la dépression, des troubles alimentaires et plus encore. Par exemple, dans certains milieux de travail, les personnes en surpoids ou obèses peuvent être ostracisées en raison que leur poids ne correspond pas à une image professionnelle ou que leur poids pourrait être perçu comme un indicateur de manque de discipline ou de santé. La lutte contre la discrimination de l'apparence physique nécessite des politiques d'inclusion claires et une culture d'entreprise qui valorise la diversité sous toutes ses formes. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section Équité, diversité et inclusion dans l'intranet du CIUS de l'Estrichu.
Avant de conclure, je reviens à vous, Isabelle et Marie-André, parce qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas clair pour moi. On a parlé beaucoup là, des mesures d'atténuation là, qu'on peut mettre en place au quotidien en tant que professionnel de la santé, mais est-ce qu'il y a des mesures d'adaptation qu'on peut mettre en place aussi au quotidien en tant qu'infirmier, qu'infirmière, infirmière auxiliaire, Marie-André?
Bien, d'abord, d'évaluer dans les personnes qu'on soigne, est-ce qu'il y a des personnes qui sont justement plus vulnérables au changement climatique? Est-ce qu'il y a des conditions de santé qui les touchent, qui pourraient aussi... par exemple, dans une vague de chaleur, les impacter. Puis une fois qu'on a déterminé c'est qui ces personnes-là qu'on soigne qui peuvent être plus à risque, bien de le tenir en compte soit dans nos enseignements ou par exemple quand on donne un congé à une personne, d'ajuster nos enseignements pour éviter les complications possibles chez ces personnes-là.
Ça me fait tellement penser, c'est le dernier épisode de notre balado, hein, de savoir et stéthoscope. Dans tous les autres épisodes, pour ceux qui ont bien écouté, la notion du cas unique aussi qui était devant nous, je trouve qu'on vient clore 2024 en rappelant encore cette notion-là de cas unique et la notion de changement climatique qui doit aussi s'adapter en fonction de la personne qui est devant nous. Je trouve ça hyper intéressant. Et tout ça aussi, ça m'amène aussi à constater que la notion de changement climatique, développement durable, c'est un thème qui est super vaste. Donc, je crois que ça serait très, très pertinent en 2025 de revenir avec un second épisode à ce sujet-là dans le balado.
C'est une très bonne idée, Julie. Merci. Je veux aussi remercier nos deux invités aujourd'hui, donc professeur Isabelle Ledoux et Marie-Andrée Houle. Merci beaucoup, mesdames!
Merci.
Avec plaisir.
Donc, c'est ce qui mettait fin à cette première saison du balado Savoir et Stéthoscope. Nous souhaitons pouvoir vous revenir plus tard en 2025 avec de nouveaux sujets.
Donc, on vous remercie beaucoup. C'était Julie Blanchette.
Et Stéthie Corriveau.
À la prochaine.
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.